6h54 sur Québec, vous êtes à l'antenne de Boulevard 101, c'est Boulevard Against le matin. Pour nous joindre par texto 418-971-1021, pour nous écouter la radio traditionnelle, l'application BLVD 102, meilleure façon de nous écouter en cette période estivale, twitch.tv/BLVD/FM, et on est également disponible sur la web radio BLVD.FM, et on a les meilleurs moments qui se retrouvent à cet endroit-là. À la météo, c'est une superbe journée sur Québec. 28 degrés ensoleillés au maximum, 13 degrés à l'heure actuelle, donc sortez une petite laine. 28 degrés demain également, mais en fin de semaine, là, ça se gâte un petit peu. 26 degrés avec possibilité d'averse samedi et dimanche, 29 degrés avec 60% de possibilité d'averse. Donc le beau soleil qu'on avait hier dans les prévisions est disparu, peut-être qu'il va revenir. Parlant de meilleurs moments sur notre site web, on a eu une entrevue hier avec Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois. Et ce dernier a eu des mots pas très tendres envers l'Institut économique de Montréal. Et on a au bout du fil un des collaborateurs préférés du show, analyste politique pour l'Institut économique de Montréal, Gabriel Giguère. Gabriel, comment ça va?
Ça va très bien.
Cool. Gabriel, je te propose qu'on fait écouter cet extrait aux auditeurs et par la suite, je te laisse réagir. Ça te convient?
Allons-y.
Excellent. Alors, ces contre-tarifs-là là, qui augmentent là, justement là, le fardeau fiscal des contribuables, l'Institut économique de Montréal nous l'a prouvé, ça peut aller jusqu'à 600 $ par année. Le Bloc québécois est en accord avec ça.
Bon. D'abord, l'Institut économique de Montréal est également une organisation très militante et très, très à droite. Ensuite de ça, il y a peu de contre-tarifs au Canada, donc on ne peut pas se palmer là-dessus ou se fâcher là-dessus. Il y en a très, très peu des contre-tarifs au Canada parce que M. Carney a renoncé aux contre-tarifs au Canada. Donc, le calcul sur ce que ça coûte à chaque famille, moi, je peux vous répondre que j'ai aussi fait faire une étude qui établit que ça coûte des milliers de dollars à chaque famille, à chaque année, le changement climatique. Et il y a bien du monde qui aimerait bien ça, qu'on fasse comme si ça n'existait pas, puis qu'on devienne une économie encore plus pétrolière. Alors, étude pour étude, on pourrait en parler longtemps, mais les contre-tarifs ont peu d'impact parce qu'il y en a à peu près pas qui sont appliqués présentement sur le territoire canadien.
Gabriel, je te laisse la réplique. Les contre-tarifs ont peu d'impact. Pourtant, tu nous expliquais complètement le contraire la semaine dernière. Est-ce que Yves-François Blanchet a besoin d'un cours d'économie 101?
Je pense qu'il va falloir que M. Blanchet là prenne le cours d'économie 101 parce que, en fait, vous savez, les chiffres qui ont été pris par l'IEDM, ça provient du ministère des Finances. Moi, le ministère des Finances au Canada, je suis peut-être un petit peu idéaliste, mais j'ai l'impression que c'est pas une organisation militante. Donc, quand on regarde l'augmentation de 1,5 milliard de dollars en matière de revenus de tarifs douaniers, moi, j'ai pas regardé dans le ciel pour essayer de compter les oiseaux puis vous arrivez avec un chiffre, là. On va chercher ça au ministère. Donc, peut-être également que ce rapport-là qui est sorti il y a quelques semaines pourrait être lu là, de la part du chef du Bloc québécois pour peut-être comprendre par la suite comment un tarif douanier qui est payé par les entreprises canadiennes, parce qu'il faut comprendre que quand c'est le gouvernement du Canada, c'est payé par les entreprises canadiennes, bien, ça se refile par la suite aux consommateurs. Je pense qu'il y a peut-être, c'est ça, là, des petites bases en économie qu'on va retravailler.
Gabriel, est-ce que c'est la preuve qu'on est devant un fameux Bloc libéral, c'est-à-dire que le Bloc québécois prendrait exactement les mêmes décisions et poserait les mêmes gestes que les libéraux sont en train de poser?
Ben, sais-tu, je pense que non. C'est ça qui est spécial, c'est que je te dirais, avez-vous remarqué là dans le clip qui vient de passer, on parle d'économie, on parle de coûts pour les familles, puis tout de suite on parle de changement climatique. C'est comme si on y a une forme de je dirais pas de dédain, mais un peu d'intérêt en matière d'économie à l'heure où on se parle au sein du parti pas du Parti québécois, pardonnez-moi, mais du Bloc québécois, à tout le moins de ce que je viens d'entendre. Donc, je suis même pas persuadé parce que un élément qu'il faut dire et que j'ai été assez content ce matin, c'est de lire que le gouvernement Carney, devant les augmentations de tarifs douaniers, n'ira pas nécessairement, hein, il y a le nécessairement qui est important, mais ne devrait pas aller vers une réponse automatique de tarifs de rétorsion. Et ça, c'est une bonne chose. Ça revient justement au fait que ben, ça sera les familles canadiennes qui paient si les tarifs douaniers de réponse de Mark Carney vont de l'avant. Donc, je suis assez content que le gouvernement n'est pas dans cette direction-là. Pourtant, je suis loin d'être persuadé que ça aurait été également l'approche du Bloc québécois.
Est-ce que du côté des pertes, là, il parle de pertes d'argent en raison des changements climatiques. Comprends-tu ce que Yves-François Blanchet voulait nous expliquer avec ça?
Ben, je je pense qu'il y a encore beaucoup à développer de son côté en la matière, de voir déjà c'est quoi la méthodologie, c'est quoi les chiffres. J'ai pas l'impression là de payer plus en matière là, de changement climatique. Peut-être qu'il va regarder les dépenses gouvernementales, d'essayer de comprendre comment ça touche le portefeuille, mais ça, tout reste à être démontré là, de la part du chef du Bloc québécois.
On arrive à notre sujet principal qui est justement ce dépôt de mémoire pour ce qui est pour ce qui est du budget fédéral qui va avoir lieu en octobre. On est présentement dans la préparation de ce budget-là. Est-ce que l'Institut économique de Montréal va tenter de sortir des sentiers battus et de la boîte? Moi, Jacinthe-Ève, on dit régulièrement ici en ondes qu'avec un déficit de 70 milliards au Canada, avec un déficit de 13,5 milliards au Québec, on n'aura pas le choix de revoir l'ensemble de nos programmes sociaux.
On n'aura pas le choix parce que c'est un budget qui est ultra important. Là. C'est le premier budget de Mark Carney. Déjà, on le repoussait en automne. Pas fan de ça, mais en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'il commence à y avoir également des projections de certains instituts de recherche comme le CDAO qui nous présente en fait des possibilités de déficit pour 2025-2026, le budget qui sera déposé en automne, de l'ordre de 92 milliards. Là. Tu sais, on n'est pas en pandémie. Donc, c'est très problématique et on doit réduire les dépenses au sein du gouvernement fédéral. Alors effectivement, là, je vois trois postes de dépenses qu'il faut absolument couper. Là, c'est la hache ou la chainsaw si on veut s'inspirer là de l'approche argentine.
Ouais,
là,
oui.
Mais argentine, on n'a pas le choix parce que la première des choses, c'est de dire il faut réduire le nombre de fonctionnaires à Ottawa. Une augmentation de 100 000 fonctionnaires sous le gouvernement de Justin Trudeau. Il faut commencer ce mandat-là en se disant, écoutez, on va adopter l'approche chrétienne. Puis ça, ce que ça veut dire très concrètement, c'est qu'on vise une diminution de 17,4%, donc de 60 000 fonctionnaires.
Puis j'aime ça quand tu parles de l'approche chrétienne, parce que Jean Chrétien est un premier ministre libéral et non conservateur.
C'est exactement ça, parce qu'on a toujours l'impression que libéral égale déficit, tout ça, mais il faut juste remonter dans le temps, puis on voit très clairement que la gestion, la rigueur budgétaire, la bonne gestion des effectifs du gouvernement fédéral, c'est libéral comme conservateur. Ça n'a pas de parti pris. Donc ça, je pense que c'est vraiment une approche qui est incontournable. Par la suite, tout ce qui est la question des subventions aux entreprises, on a vu le flop monumental lié à la filière batterie, puis j'en passe, là, mais ça ne fonctionne pas. Le gouvernement n'a pas la capacité d'être le grand planificateur central. À tout le moins, on ne sait certainement pas ce qu'on veut au Canada. Donc, on a ces deux éléments-là. Et le troisième, il faut absolument mettre de côté les nouveaux programmes que le gouvernement libéral, et je mets un petit tiret NPD des dernières années, ont fait passer. Je pense notamment à l'assurance médicaments, à l'assurance dentaire. Ce sont des programmes pour deux raisons qu'il faut mettre de côté. D'abord, c'est une violation des champs de compétences provinciales par le fédéral, faut le dire,
au
fédéral de se mettre le nez là. Et c'est des milliards et des milliards pour chaque programme, chaque année. Si je prends juste l'assurance médicaments, pour que tout le monde comprenne bien, quand on travaille souvent, vous allez avoir une assurance privée avec votre employeur, eh bien, ce que ça vient faire, c'est que ça crée une dynamique où l'assurance publique avec payeur, en fait, va fournir certains médicaments, ce qui va faire en sorte que ça va être beaucoup moins intéressant pour les assureurs privés. Ça pourrait réduire la qualité de la couverture de ces assurances-là. Donc, au final, les Canadiens sont déjà bien couverts par leur assurance privée. Ça viendrait réduire la qualité de la couverture. Ça coûterait des milliards de dollars. Et le fédéral se met le nez dans les affaires du provincial. Je pense que c'est un vrai bouquet d'éléments néfastes qui obligerait le gouvernement Carney à réduire, à abolir ces programmes-là si on veut vraiment retourner sur le droit chemin de l'équilibre budgétaire qui nous semble encore très loin.
Ça, c'est les trois éléments dans lesquels il faudrait couper pour redresser nos finances publiques. Gabriel Giguère, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut mettre en place? Est-ce que vous vous attendez à quelque chose qui s'ajoute comme structure ou comme mécanisme?
Alors, pour aller de l'avant, je le sais que le gouvernement a mis de l'avant la question là, de l'État efficace avec Joël Lightbound.
Oui.
Ça pourrait être intéressant quand même que M. Lightbound reprenne la question de la réduction des effectifs. Ça me semble absolument incontournable. Il y a également eu, et la question du mécanisme reste à être déterminée, mais une volonté de réduire la surréglementation fédérale qui vient non seulement complexifier la vie des entrepreneurs, parce que quand vous êtes un entrepreneur, d'être capable d'être aux normes de tout l'industrie, que ce soit en manufacture ou quoi que ce soit, c'est très très long, et la réglementation fédérale n'aide certainement pas, ça prend plusieurs heures, ça coûte très cher pour les petites PME. Donc d'aller de l'avant avec une réduction de la réglementation est nécessaire. Maintenant, le mécanisme, on espère quand même qu'on va utiliser les nouvelles technologies, hein, parce que ça permet de débloquer de la force de travail, puis d'être de l'efficacité, de la productivité. Mais en même temps, quand on regarde le gouvernement qui essaie d'adopter des nouvelles technologies, on voit certaines problématiques, hein. On peut penser à l'Afghan, puis Phoenix. Donc on est toujours très très méfiant quand on voit le gouvernement aller de l'avant avec des nouvelles technologies, mais je pense qu'à l'heure où on se parle, on n'a pas le choix d'aller de l'avant avec ça. Ça me semble absolument incontournable, et on a également dans le mémoire un deuxième aspect qui est très important, mais qui en parallèle me fait toujours sourciller. C'est la question d'augmenter les revenus. J'en ai parlé avec la réduction et l'abolition du nombre de réglementations fédérales, mais en réalité, souvent, ça va être utilisé comme un spin politique par les décideurs politiques pour pas faire de choix en matière de réduction des dépenses. Donc, ça ne peut pas être un ou l'autre. Ça peut surtout être un et l'autre avec comme priorité la réduction des dépenses, mais en matière d'augmentation des revenus, je pense que c'est très clair.
Nos ressources naturelles, Gabriel?
Nos ressources naturelles. Il faut en parler, c'est important que le gouvernement Carney, on a passé un projet de loi C5 qui n'est pas globalement un mauvais projet de loi, c'est juste que c'est insuffisant de dire on va aller de l'avant avec des grands projets d'infrastructure. Je pense que ça peut être intéressant si c'est pas le public et l'argent du public là qui va de l'avant pour la réalisation de ces projets-là, mais c'est surtout de dire est-ce qu'on peut délier les mains des investisseurs pour construire, que ce soit des grands projets de port terminal, comme on pourrait voir là avec le gaz naturel à Baie-Comeau. Mais le problème avec le C5, c'est que ça vient donner tous les pouvoirs dans les mains du gouvernement pour choisir quel projet va pouvoir aller de l'avant et quel projet va être contourné. Parce que les
donc, c'est encore le gouvernement qui décide de ce qui est bon ou non pour l'économie.
C'est toujours ça le problème, exactement. Le gouvernement pense que c'est à lui de choisir quel projet, mais au final, c'est pas ça du tout. Puis quand on pense à des projets comme Marinvest, à Baie-Comeau, là, c'est des salaires là bien en haut de 100 000. C'est vraiment un changement de vie pour plusieurs travailleurs, pour nos travailleurs de région au Québec et au Canada. Donc, c'est évident que de pouvoir aller de l'avant avec des projets, comme on a dit non auparavant, GNL Québec, Énergie-Est, mais d'aller de l'avant avec ce type de projet-là, c'est très créateur de richesses. C'est bénéfique pour le Québec, pour le Canada. C'est bénéfique pour la prospérité de tout le monde, parce que c'est quand même des emplois. Là, quand on regarde sur Statistique Canada, en matière de productivité, t'es pas plus productif que ça dans l'économie canadienne. Là. En valeur ajoutée par heure travaillée. Donc, il faut vraiment des grands changements au sein du gouvernement du Canada si on veut s'assurer non seulement de réduire les dépenses, mais d'augmenter les revenus pour un jour, là. Arrêtez de penser que c'est juste un rêve, l'équilibre budgétaire au fédéral, puis que ça devienne enfin une réalité.
Pour rappel, on parle avec Gabriel Giguère, analyste politique pour l'Institut économique de Montréal, dépôt du mémoire pré-budgétaire aujourd'hui en prévision du budget fédéral à l'automne, en octobre prochain. Gabriel, hier, on apprenait une coupure de 859 postes au Québec dans la fonction publique et les syndicats montaient déjà aux barricades. J'imagine qu'il faut combattre justement ces fameux syndicats-là si on veut réussir à réduire les dépenses adéquatement?
Hier, j'ai presque tombé en bas de ma chaise en lisant cet article-là. 850 quelques postes.
Ben oui!
Et on nous expliquait que c'est comme si on mettait le clé sous la porte de la fonction publique. On peut plus travailler.
Non, c'est ça exactement. Il n'y aura plus de service au Québec, Gabriel.
C'est fini. Puis en plus, tu sais, on vient de nous parler après ça. Il y a des spins dans l'espace public pour nous expliquer. Non, nous, c'est des infirmières puis c'est des enseignants qu'on embauche. Attendez un peu, là. Les fonctionnaires, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est les gens qui travaillent dans le bureau à Québec.
Exactement.
Donc, on va prendre une grande respiration. C'est à peine 1% de l'ensemble des fonctionnaires en poste. Et il y avait des postes également qui n'étaient pas comblés, qui ont simplement été mis de côté. Donc, faut juste.
Oui, parce que c'est ça. Tu sais bien de le mentionner, parce que dans ces 859 postes-là, là, on n'a pas, puis là, je vais prendre cette expression-là, on n'a pas donné notre bleu à 859 personnes. On n'a pas congédié 859 personnes. On en a peut-être remercié. Même pas 100, là, c'est juste qu'il y avait des postes vacants, des gens qui partent à la retraite, puis on dit bon, ben on renouvellera pas ce poste-là.
Exact. Puis je pense que c'est le début avant d'en congédier probablement plusieurs milliers là, pour s'assurer de revenir à l'équilibre budgétaire. Donc, j'espère que les syndicats vont nous entendre ce matin pour entendre le fait que ce qui se passe aujourd'hui, ça doit être la pointe du iceberg. Il va falloir que le gouvernement du Québec ait de l'ambition à la question, parce qu'on est, on n'est pas à la ligne d'arrivée, là. On parle de 2000 postes en moins au niveau du fonctionnariat québécois. 2000 postes, ce n'est pas encore ambitieux. Il faut, faut quand même se rappeler qu'en 2018, le gouvernement, plutôt François Legault, pendant sa campagne électorale, nous promettait une coupe de 5000 postes de fonctionnaires. À l'heure où on se parle, il y a plus de 11 000 fonctionnaires supplémentaires depuis l'élection et depuis l'arrivée au pouvoir de François Legault en 2018 et de son gouvernement. Donc, on comprend que le 5 000, et on essaie de nous vendre par ailleurs, hein, en 2023, si je ne me trompe, que non, non, finalement, on l'a éliminé le 5 000. Fait qu'on en a enlevé 5 000 de la poche gauche, mais on en a rajouté 16-17 000 de la poche droite. T'sais, à un moment donné, je pense que les Québécois puis les Québécoises le comprennent très bien. Là, on est pas des nounous, là. Puis quand on se fait dire ça, on se dit, s'il vous plaît, là, on est capable de lire, on est capable de faire des additions, puis quand on est à plus 11 000 quelques, on n'est pas à moins 5 000.
Le gouvernement Legault prévoit faire un remaniement ministériel et on dit que ce ne sera pas exclusivement cosmétique. Donc, il n'y aura pas juste des changements de tête. Qu'est-ce que l'Institut économique de Montréal va surveiller dans ce changement de cap pour le gouvernement?
Je pense que l'un des grands enjeux, en fait, il y a plusieurs grands enjeux, que ce soit la santé ou autre, c'est de voir que si on vient rebrasser les cartes d'un même paquet de cartes, est-ce qu'il va y avoir des nouvelles orientations? Parce que je veux quelque chose de très clair, c'est d'entendre qu'on change de direction, notamment en matière d'énergie. Je ne comprends pas qu'à l'heure actuelle, on n'est pas en train d'expliquer à la population que la cible des véhicules zéro émission en 2035, ouais, ça fonctionnera pas, on met ça de côté. De pas expliquer à la population que Marinvest, là, c'est pas peut-être si ça me tente. Non, non. On va de l'avant avec Marinvest si ça respecte la loi d'évaluation d'impact. C'est important quand même là de s'assurer que c'est pas fait tout croche, mais je suis persuadé que ça le sera pas. Donc, d'aller de l'avant, de prendre des engagements clairs sur une transition dans la vision énergétique du gouvernement pour aller vers une exploitation de nos ressources naturelles. Fait que, si on me dit, ben on va changer 4-30 sous pour une pièce, on va enlever un tel ministre en énergie pour le remplacer par une autre, mais qu'on a au final les mêmes politiques publiques, je vous avoue, c'est peut-être une question d'effectif et de productivité au sein du ministère, mais je pense que ça prend une nouvelle vision et je ne sais pas si ça sera à l'intérieur de ce gouvernement.
On apprenait hier que la ministre de l'Économie, Christine Fréchette, conservait le bloc d'énergie allouée à Nordvolt dans l'espoir d'une reprise par une autre entreprise, alors qu'il y a des entreprises qui ont demandé des blocs d'énergie et espèrent obtenir une petite pointe de cette tarte-là, parce que c'est plus de 360, je pense, mégawatts qui sont réservés là, pour Nordvolt. Comment tu vois ça, ce bloc d'énergie qu'on réserve à une entreprise qui n'est pas encore installée sur le site de Nordvolt?
Il faut comprendre que 364 mégawatts d'énergie, c'est énorme. Là.
Oui.
C'est un tiers de ce qui a été alloué l'année dernière, là, ou plutôt en 2023. C'est beaucoup d'énergie. Donc, de le rallouer, ça permettrait un développement économique. Oui. En réalité, j'ai l'impression que la ministre de l'Énergie est devant une situation qui est difficile politiquement, parce que si elle décide de le redonner, c'est un aveu d'échec de ouais. A à Z, parce ouais. qu'on dit, ben, on le sait qu'il n'y en aura pas de projet, là. Donc, on arrête, mais en même temps, est-ce qu'on préfère être dans un déni? En économie, on appelle ça, j'ai le terme en anglais, là, le sinking cost, mais c'est le coût irrécupérable, le sophisme des coûts irrécupérables, où on est tellement allé loin qu'on se dit, on peut pas aller en arrière, là. On est tellement rendu loin. Et j'ai l'impression qu'on est dans cette dynamique-là où la ministre de l'Énergie et n'accepte pas le réel.
Oui,
en effet.
J'ai l'impression que le gouvernement n'accepte pas le fait que la politique de batterie, là, les poumons de l'Amérique du Nord, que sera le Québec, ça ne fonctionne pas. Ça, on s'en va dans le mur avec ça et on veut conserver des politiques publiques qui ne fonctionnent tous pas. Je pense qu'il faut penser à une nouvelle étape et donc de dire, certes, on alloue ces mégawatts-là, fort probablement. Évidemment, je suis pas dans le bureau de la ministre, je ne sais pas c'est quoi les projets qui sont sur son bureau, mais s'il y en a pas, puis on est vraiment dans des vœux pieux, il faut aller de l'avant avec une redistribution des mégawatts. Mais il faut surtout, en tant que gouvernement, avant le remaniement, accepter que la vision qu'il y avait en 2022-2023 de la batterie de l'Amérique du Nord sous, justement, Pierre Fitzgibbon ne fonctionnera pas. ce ne sera pas la réalité. Maintenant, on avance et on assumera les conséquences politiques des choix qui ont été faits.
Tellement d'accord avec toi, Gabriel Giguère. Et d'ailleurs, j'ai réservé pour nos auditeurs et pour Jacinthe-Ève des extraits concernant là, justement cette situation-là de Nordvolt. On va en parler plus tard là, dans l'émission. Et ça coûte énormément cher. Il y a plein d'investisseurs qui sont prêts à mettre des milliards de dollars au Québec qui sauvent en Ontario à l'heure actuelle en raison de cette situation-là. Donc, ça coûte énormément cher au Québec. Gabriel Giguère, comme d'habitude, c'est un plaisir de te parler. Je te souhaite une excellente journée, puis au plaisir de se reparler. Moi, je suis en vacances la semaine prochaine, mais tu pourras toujours parler avec la gang. C'est Max qui va être là avec Jacinthe-Ève et Mathias.
Ben, bonnes vacances, toujours un plaisir de vous parler.
Merci, Gabriel. Salut, bonne journée. Alors, c'était Gabriel Giguère, l'excellent analyste politique pour l'Institut économique de Montréal. Toujours sur la coche, toujours une vision terre à terre.
Il parlait du sinking cost fallacy. Ouais. En français, c'est l'illusion des coûts irrécupérables ou l'erreur des coûts irrécupérables. C'est quand on dit, tu sais, on a déjà un bras dans le tordeur, mm-hmm. on a déjà mis tant de millions dans un projet, on a le bras dans le tordeur, il faut continuer. Un ouais. peu ce à quoi fait référence toujours Bruno Marchand ouais. en ce qui concerne le projet du tramway. Mais tu sais... Tu c'est peux laisser ton bras dire. Dans le tordeur puis dire on va continuer à mettre tout le corps, mais on va mourir dedans.
C'est
ou
ça.
Tu peux dire on coupe le bras, on va avoir perdu un bras, mais on continue de vivre.
Exactement. Puis c'est pas mal là que la décision est à prendre du côté du gouvernement. De toute façon, ils ont déjà perdu pas mal de morceaux
ben oui.
dans leur deuxième mandat. Donc, peuvent conserver le poumon puis le cœur.
C'est puis essentiel. Puis le
essayer,
cerveau.
Le cerveau, puis essayer d'avancer avec ça. T'as entièrement ben raison. L'image était très, 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 très bonne. On fait une courte pause à Boulevard Again ce matin sur les ondes de Boulevard 102.1. Par la suite, on revient avec l'essentiel de l'actualité avec Mathias Turcotte. Et Farnell Morissette vient s'installer en studio. Pas un, pas deux, mais trois sujets avec Farnell. Jeffrey Epstein, redécoupage de la carte électorale aux États-Unis et également ces peines qu'on donne qui maintenant, on tient compte de l'origine ethnique des gens qui sont reconnus coupables. Restez avec nous, ça va être très intéressant, cette chronique de Farnell Morissette. Boulevard 102.